Huitième jour avec Claire Bressolet.
Une utopie, ça nous ferait bien plaisir. Pour le huitième jour, d'avoir une sorte de petit paradis perdu, de sortir de notre condition. Est-ce pensable dans une société de masse? Est-ce simplement souhaitable? Fritz Lang répond en 1926. Il répond par Métropolis, qui est une dystopie, c'est-à-dire un monde en haut, un monde en bas, et le monde en bas ne sort pas de la mécanisation. Les ouvriers sont présentés de dos, on ne voit que leurs nues, qui sont pas rangés, tous habillés pareil, une série d'esclaves, une série d'automates, une série de machines. Le premier visage que l'on voit, c'est un visage à l'agonie. L'agonie d'un ouvrier qui n'a plus la force de monter jusqu'à la manette pour empêcher l'explosion de l'usine. Dystopie de la mécanisation. L'habitude est-elle une mécanisation? Sortons-nous de nos habitudes. L'habitude mène-t-elle obligatoirement au taylorisme, au fordisme, c'est-à-dire à l'exploitation d'un geste parfaitement rentabilisé pour que l'on puisse faire un travail à la chaîne et produire. Cette dénonciation de l'habitude mécanique du geste au profit de l'économie qui déshumanise l'homme et en fait une simple prolongation de l'outil, une mécanique, elle est dénoncée bien sûr aussi par Charlie Chaplin dans Les Temps modernes. Cette photo magnifique des engrenages où Charlot est englouti dans les engrenages, où lui-même avale une vis quand on lui apporte de quoi manger mécaniquement son repas. Comment réfléchir sur l'habitude? Quel est l'enjeu? Vous avez reconnu la musique de Fritz Lang dans Métropolis et c'est l'instant où l'usine va exploser et où elle se transforme en véritable monstre Moloch, ou le dieu Baal, comme vous préférez, qui va se nourrir de vie humaine. Alors, en est-on là avec l'habitude? Je voudrais vous proposer la réflexion de Yves Simon, qui est un disciple de Jacques Maritain. Enquête sur la vertu morale a été publiée aux éditions Teki en 2020 et on a, dans la page 120-121, une réflexion sur l'habitude avec trois dimensions philosophiques. Première dimension, c'est l'héritage aristotélicien. L'habitude est une potentialité, on va dire, c'est-à-dire que Aristote articule la puissance et l'acte. Et l'acte est une perfection, puisque c'est un acte, le premier moteur est un acte pur, hein. Le premier moteur c'est celui qui va mouvoir les différentes sphères, et dont la Terre. Et donc ici, le premier point sur lequel Yves Simon attire notre attention est celui-ci. S'il est vrai que nous agissons par habitude, l'habitude n'est pas en elle-même une activité. Elle n'est qu'une disposition à agir, donc l'articulation aristotélicienne. Deuxième point pour l'habitude, c'est au contraire une stabilisation par la répétition d'actes. Yves Simon pose la question. Combien de lectures faut-il faire d'un poème pour le mémoriser? Combien de fois vais-je devenir toxicomane à force de fumer de la marijuana? C'est dans le texte. Hein. Combien de fois faut-il prendre de l'opium? Donc ici, la loi de l'habitude exige des répétitions en actes. Et troisième point, c'est celui ouvert par David Hume qui dit « mais finalement, l'habitude n'est pas objective ». Dans les deux points précédents, l'habitude est objective, c'est une potentialité d'acte ou une répétition actuée. Et David Hume dit « non, l'habitude est tout simplement une subjectivité ». Alors je vous cite Yves Simon. Ce qui passe pour la connaissance du monde n'est jamais, selon Hume, autre chose qu'une collection d'habitudes de l'esprit. qui sont totalement dépourvus de la moindre nécessité rationnelle objective. Une fois qu'on a posé ces trois interprétations, ces trois notions de l'habitude, comment peut-on en sortir? Eh bien, vous voyez très bien que la dernière, je vais le faire en remontant, c'est une habitude de l'esprit. Elle peut arriver à ce qu'on appelle le présupposé, l'idéologie, le préjugé, le point aveugle. On ne voit pas dans la discussion et ça encourage, un, la relativité des points de vue, il n'y a plus d'objectivité, plus de rapport au réel, et deux, la remontée permanente à un préjugé, une habitude de pensée dont il faut se défaire. La sortie de l'habitude est périlleuse. Pourquoi ? Parce qu'elle renvoie de manière infinie à une remontée dans le préjugé. Le deuxième point, l'habitude qui est une répétition en acte, elle est périlleuse aussi. Comment en sortir ? Il faut beaucoup de volonté et en particulier une assaise. Demander à un alcoolique de sortir de l'alcoolisme, à un joueur de cartes de sortir du jeu, c'est compliqué. Il faudra une aide pour passer à une privation. Et finalement, c'est la troisième notion de l'habitude, c'est-à-dire la première telle que l'énonce Yves Simon, celle qui repose sur la différence entre puissance et acte, qui nous permet de sortir de l'habitude. Pourquoi ? Parce que l'homme est une potentialité, il a plusieurs possibilités pour un seul acte. Alors je vais parler d'un autre texte très connu. C'est un texte où Aristote défend la posture de l'homme au milieu des animaux. Les animaux sont dits chanceux. Pourquoi ? Ben, l'un a un dard, l'autre a une armure, comme la carapace de la tortue. L'autre a des griffes, comme l'aigle. L'autre a un bec, comme le toucan. L'autre a la vitesse, comme le jaguar. L'autre a ceci, cela. L'homme, il n'a rien. Il est tout nu. Ni bec, ni griffe, ni carapace, ni dard, rien. Mais il a une main. Il a une main qui, vous le sentez bien, est une capacité. Elle peut tenir un archer de violon, elle peut tenir une fourchette, elle peut tenir un couteau, elle peut tenir une arme, elle peut tenir un stylo. Autrement dit, elle est une puissance d'acte possible, une potentialité. Et Aristote a cette conclusion, c'est parce que l'homme est intelligent qu'il a la main. Autrement dit, il n'est pas cantonné à une défense, la défense d'éléphant, le jaguar, la griffe, la pince, la carapace. Il en a une multitude parce qu'il est intelligent. C'est l'intelligence qui est sa plus grande défense. Et donc, vous le comprenez, c'est par l'intelligence que je peux sortir de l'habitude et donc entrer dans le huitième jour qui nous recrée.